Axel Villard, à la une de la science aujourd'hui, on découvre une foreuse des plus efficaces.
Alors oui Mathieu, mais ne vous y trompez pas, la foreuse dont on va parler aujourd'hui ne fait pas du tout ce bruit puisqu'elle mesure 2 mm seulement. C'est une fourmi, l'une des plus petites de la planète. Elle s'appelle Melissotarsus, elle est aveugle et vit à l'intérieur des arbres sur le continent africain. Alors Mathieu, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de couper un arbre bien vert à la force de vos mâchoires.
Ah non, jamais, non, vraiment pas.
Alors je vous le confirme, c'est très 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 difficile et c'est pour ça qu'elle intéresse les chercheurs, cette fourmi. Elle est capable avec ses mandibules d'y creuser des galeries sans la moindre difficulté. Elle fait l'objet d'une étude approfondie par des chercheurs français et nous recevons un de ces chercheurs. Bonjour Christian Peters.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes zoologue pour le CNRS à l'Institut d'écologie et sciences de l'environnement de l'Université Sorbonne. Alors cette fourmi, Melissotarsus, racontez-nous un peu son mode de vie très particulier. Pourquoi a-t-elle choisi de vivre à l'intérieur des arbres vivants ?
Donc Melissotarsus est minuscule et elle a évolué pour se nourrir des arbres. Alors, la plupart des fourmis ne savent pas se nourrir des arbres, sauf par l'entremise des cochenilles, qui sucent l'arbre. Et donc, Melissotarsus creuse des galeries à l'intérieur de l'arbre, un réseau de galeries dans lequel des cochenilles très spécifiques, les diespines, vivent et donc sucent une partie de la matière végétale.
Donc la fourmi creuse pour la cochenille, c'est ça qu'il faut entendre ?
Exactement. Et comme elle est hautement spécialisée et elle est incapable de sortir de ce réseau de galeries et donc de s'alimenter elle-même, par elle-même.
Alors ce qui vous a intéressé, c'est la manière qu'elles ont, ces fourmis, de creuser du bois vert. C'est une capacité que peu d'animaux ont dans la nature.
Oui, tout à fait. D'habitude, les fourmis nichent dans des réseaux de galeries qui sont déjà creusés, ou alors elles peuvent parfois aménager du bois mort, mais à ma connaissance, il y a très peu de fourmis qui creusent vraiment du bois vivant. Donc sous l'écorce.
Alors quel est son secret ?
Donc sa tête minuscule est en fait remplie de muscles, des muscles puissants qui activent donc ses mandibules, des mandibules qui avec une forme bien particulière. Et donc nous avons étudié la géométrie de ces muscles et nous avons montré que tout l'intérieur de la tête est vraiment rempli de ces muscles qui coexistent avec les autres structures essentielles comme la cervelle, comme les glandes.
Comment est-ce qu'on fait pour aller voir la musculature d'une fourmi dans sa tête alors que la fourmi elle-même fait 2 mm ?
Voilà, donc nous avons utilisé une technique d'imagerie très très performante qui s'appelle la microtomographie. Et donc mon thésard Adam Khalif a pu reconstituer la géométrie de ce muscle et a pu montrer que au contraire d'autres fourmis, à la fois les muscles qui ouvrent et les muscles qui ferment les mandibules sont très très développés.
Et c'est la seule fourmi qui présente une tête avec tous ses muscles de cette façon-là ? C'est vraiment unique dans le règne animal ou pas ?
Non, il y a d'autres fourmis qui ont de grosses têtes, souvent des têtes allongées, et qu'elles utilisent pour activer les mandibules avec une grande vitesse, par exemple. Mais c'est rarement pour avoir une puissance continue.
Alors, est-ce que ces fourmis, Melissotarsus, ont des prédateurs à l'intérieur de l'arbre ? Est-ce qu'il y a une vie ailleurs avec elles ?
Donc, elles vivent en isolation complète du monde extérieur. Et dès qu'on ouvre leur galerie, elles deviennent vulnérables. Parce qu'elles ne peuvent pas se défendre, elles n'ont pas d'aiguillon, elles n'ont plus d'aiguillon, elles ne savent pas marcher correctement. Et donc, elles utilisent de la soie qu'elles mélangent avec de la cire de bois pour combler les brèches. Et là encore, c'est une adaptation tout à fait inédite.
Donc elles ont perdu plein de capacités que d'autres fourmis ont, mais elles ont gagné plein d'autres. C'est comme ça qu'il faut voir l'évolution de l'espèce.
Tout à fait. Et donc elles ont, en plus des mandibules puissantes, les 4 pattes arrière sont très spécialisées pour s'accrocher aux parois des tunnels pendant l'activité de perçage. Et donc, si on a des pattes comme ça, on ne sait plus marcher à l'extérieur de l'arbre.
Oui. C'est-à-dire que vous avez fait l'expérience de mettre cette fourmi sur un plancher, sur une surface plate, et elle ne marche pas, elle n'arrive pas.
Elle titube, elle ne parvient pas à se mettre debout.
On a une vidéo d'ailleurs.
Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo de la fourmi qui tombe table sur la page de la Une de la Science. Une dernière question, Christian Peters. Ces fourmis, on n'en trouve qu'en Afrique, on ne peut pas en trouver en France ou en Europe ou ailleurs ?
Non, elles sont exclusivement africaines et au Madagascar, à Madagascar aussi. Oui. Mais on la trouve dans une grande variété d'arbres, plus de 20 familles d'arbres. Et donc, elle est tout à fait capable de gérer cette activité. Donc.
Merci beaucoup en tout cas pour ces explications qui font l'objet donc d'une publication. Christian Peters, vous êtes zoologue pour le CNRS à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement. Merci à vous. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 200 ans de science détruite en quelques heures à Rio de Janeiro. Vous le savez, dans la nuit de dimanche à lundi, ce gigantesque incendie qui a ravagé le Muséum National Brésilien fondé en 1818. Et ce sont donc des collections complètes en botanique, en zoologie, en paléontologie qui sont parties en fumée. Parmi elles, une météorite de 5 tonnes et Lucia, le fossile de la plus vieille américaine à ce jour, âgée de 12 000 ans. Une perte inestimable, a déclaré le président du musée. Y aurait-il de l'eau sur Jupiter? Question qui taraude les scientifiques depuis des années et qui trouve peut-être de nouvelles pistes de réponse. Une équipe de la NASA pense avoir identifié des traces de la fameuse molécule H2O dans la grande tache rouge de la géante. Les observations directes et infrarouges de la grande tempête ont permis de déterminer la composition des nuages à différentes altitudes. Dans la couche inférieure, on trouverait donc de l'eau liquide ou sous forme de glace. Des observations prochainement menées sur d'autres zones de Jupiter permettront de confirmer ou non cette composition. Et puis le LSD en dose homéopathique, ce serait la nouvelle tendance depuis quelques années dans la Silicon Valley aux États-Unis. De nombreuses personnes consommeraient quotidiennement de micro-doses de cette drogue, pourtant interdite, afin d'augmenter soi-disant leur bien-être et leur créativité. Aucune étude n'a pour l'instant mesuré les effets de ces drogues à doses très faibles. Alors pour en avoir le cœur net, une équipe du King's College de Londres lance une large étude pour opposer micro-doses de LSD et placebo. Les chercheurs pensent que les effets ressentis par les adeptes du micro-dosing sont majoritairement dus à l'effet placebo, lui-même renforcé par le caractère illicite du produit.